Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Par les temps qui courent, qui écoutent les artistes pendant une heure, tous les soirs. Ce soir, nous sommes ravis de recevoir le photographe Alain Guillaume.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Puisqu'il faut choisir, alors parlons de cette image-là. Les deux mains d'un homme crochettent un grillage, sa tête est coiffée d'un béret, et sous ses sourcils, on distingue deux yeux totalement accaparés par la lumière du terrain de football en contrebas des gradins. C'est de la concentration qu'il y a dans ses yeux, mais allez savoir pourquoi, on y lit aussi de l'effroi, de l'attente et une forme d'angoisse qui dépasserait la seule peur du résultat. Allez savoir pourquoi, on pense soudain à toutes les choses atroces qui se sont passées dans les stades de foot, pendant les coups d'État, des périodes de répression ou pire. Voilà, Alain Guillaume, vos images sont équivoques et c'est toute leur puissance. Elles ne nous transportent pas dans un endroit trop précis ou alors tout à fait en nous-mêmes, d'où le sourire à lire le titre du magnifique livre publié aux éditions Xavier Barral, Coordonnées 72-18. Bonsoir à vous, Alain Guillaume.
Bonsoir, Marie-Richeux.
Toute petite sélection sur plusieurs dizaines de travail de photographie. Moi, j'ai choisi celle-ci. Je sais pas, au dernier moment, je me suis dit, je vais choisir une des images du livre. Cet homme accroché au grillage d'un stade de football. Est-ce qu'elle a une histoire particulière pour vous?
Vous avez fait un choix incroyable parce que pour moi, c'est une des, c'est, je crois que ma compréhension de la photographie a commencé avec cette série d'images.
Pourquoi?
C'était en 78. Je connaissais pas grand chose à la photo. Je travaillais à l'époque comme tireur dans un labo photo. Et, je discutais avec un copain qui était photographe, que j'admirais beaucoup. Et, qui travaillait, comme photographe. Et il m'a dit, ce soir, faut qu'on arrête de discuter parce que je vais au foot photographier le match. Et j'avais pas envie qu'on arrête de discuter. Donc je suis parti avec lui. J'avais un appareil avec moi. Je l'ai emmené avec moi. Et, on est rentré dans ce stade. Moi, j'avais jamais été au foot avant. C'était un truc qui m'intéressait pas du
c'était
tout.
C'était quel stade?
C'était au stade de la Méno à Strasbourg. Et c'était en début de saison de cette équipe de foot. Et je suis rentré là-dedans, il faisait déjà nuit, et j'ai eu un énorme coup. Parce que je savais pas que c'était ça, un match de foot. Une ambiance pareille, il y avait énormément de monde parce que l'équipe était très populaire à ce moment-là. Et j'ai découvert ce bruit. Ce décor absolument dingue, de grillage, de projecteurs. Il y avait des policiers à l'extérieur du grillage, le long du match, enfin du terrain de jeu, avec des chiens et tous ces gens qui hurlaient. Et moi, je me suis pris une énorme baffe et un espèce de réflexe de défense. J'ai sorti mon appareil. Alors que je savais que la pellicule que j'avais n'était pas du tout adaptée à la lumière qu'il y avait, j'ai juste poussé la sensibilité du film parce que c'était la nuit. Et je me suis dit, je vais pousser ça. J'avais un 20 mm qui permettait d'avoir beaucoup de champ. Ouais. Et j'ai pris des images, mais pour me défendre de cette agression-là. J'étais évidemment dos au match. Donc j'ai jamais regardé le match, je regardais ce décor, ces gens, et j'ai fait des images comme ça, sans savoir ce qui se passait. Et le lendemain, j'étais vraiment secoué par cette expérience. Et le lendemain, comme je travaillais dans ce labo, j'ai développé ce film. Et quand j'ai regardé le film, tout était bleu, il y avait plein de grains, c'était flou. Et je me suis dit, ça vaut pas un clou, je vais foutre ça à la poubelle. Et juste avant de le jeter, en fait, j'ai re-regardé, je me suis dit, mais attends, là, ça correspond à rien photographiquement par rapport aux critères que j'avais. Mais je me suis dit, l'ambiance, qu'il y avait sur ces images était exactement reflétait exactement en fait le choc psychologique que j'ai eu. Et là, je me suis dit, en fait, il suffit pas de photographier une réalité pour rendre compte de cette réalité. La photographie, ça rend compte d'autres choses. Et j'avais jamais pensé à ça. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut, c'est de ça dont il faut tenir compte. C'est qu'en fait, ce qu'on photographie, c'est pas le sujet, quoi.
Mais vous aviez déjà décidé que la photographie occuperait une grande place dans votre vie?
Oui, parce que c'était quand j'étais ado, je voulais être musicien. Et à un moment, je me suis rendu, j'avais que des copains musiciens. Et à un moment, je me suis rendu compte que si vraiment je voulais être musicien, il fallait que j'apprenne le solfège. Enfin, je faisais de la batterie, donc il fallait que je fasse des exercices d'indépendance et tout ça. Et je me suis dit, je vais jamais arriver à faire ça. Et donc, je suis devenu photographe pour faire des light shows pour mes copains musiciens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais encore au lycée. J'avais une fiancée que j'ai photographiée, évidemment, comme tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'image. Et je me suis dit que c'était incroyable comme métier, quoi. Et j'en ai fait un métier, mais vraiment en suivant toutes les étapes. J'habitais à Strasbourg à l'époque, donc je travaillais comme assistant dans un studio de pub. Après, je suis allé travailler dans un labo. Et quand j'ai fait ces photos de foot, il y avait un prix Kodak. Ça s'appelait le prix Kodak. C'était le seul prix qu'il y avait à l'époque. C'était 40 000 francs. C'était beaucoup d'argent pour l'époque. C'est genre 6 000 euros. Et il y avait, cette année-là, donc en 79, c'était début 79, ils ont dit, on fait un petit prix en plus sur le thème de la nuit. Et j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, la nuit, mes trucs sont faits de nuit, je vais les envoyer. Et j'ai envoyé ça à Paris, et j'ai oublié. Et un jour, donc pendant que j'étais dans ce studio, je décrochais toujours le téléphone, il y a une dame qui appelle un jour, qui dit, monsieur Villaume, je dis, oui, oui. Il dit, monsieur, vous avez gagné le prix Kodak. Je dis, ouais, c'est ça. Et puis j'ai raccroché. Donc elle a rappelé tout de suite après, disant, non, c'est pas une blague. Non seulement vous avez gagné le prix, mais vous avez gagné le prix en entier, parce que du coup, le petit prix sur la nuit, qui devait être un truc accessoire, on le balance sur vous et on met toute la gomme là-dessus. Et là, ça a été, je me suis dit, là, il se passe un truc, quoi. Et j'ai donné ma démission sur le champ. Dans le studio.
Pour aller faire quoi?
Alors là, j'étais bien embêté, évidemment. Alors, je suis allé, j'ai été invité par Kodak pour présenter ces images. Vous imaginez, j'avais 22 ans, 23 ans, j'avais les cheveux jusque-là, j'étais pas du tout habillé comme il fallait. Je suis arrivé à Paris chez les grandes personnes de la photographie. Je me suis fait, j'étais assez écœuré, quoi, parce que je me suis fait assez mal recevoir. Ils ont quand même eu l'honnêteté d'avoir choisi ça, ce qui était vachement gonflé, parce que même encore, maintenant c'est un peu moins, mais choisir un inconnu total comme ça, et lui donner le premier prix du seul prix photo qui existait à l'époque, il y avait des gens de Magnum et tout ça qui avaient participé à tout ça. À ça, je suis passé devant tout le monde, et c'était, je n'y connaissais rien, quoi. À part que je savais que ce boulot-là, il était bien. Et j'ai eu beaucoup de mal après à digérer ça. Je suis rentré à Strasbourg, un peu penaud, parce que je me suis dit, tous les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont tous regardé de haut et tout ça. C'est pas mon monde. Et en fait, après, j'ai à Strasbourg, quand je suis revenu, donc chez moi, entre guillemets, c'est à l'heure à Dieu, mais on m'a vachement bien accueilli. Le TNS a commencé à me demander de faire des photos.
C'est l'essentiel.
Oui. Non, c'était bien. Mais c'était un gros choc. Moi, ça a failli me dégoûter de la photo, hein, cette expérience-là.
Bon, et finalement pas, ce livre en témoigne, puisque c'est un choix parmi, je ne sais pas combien de photographies vous avez dû faire, un tri, Alain Villaume, des années et des années d'images, et je ne sais pas du tout combien on figure ici, dans le coordonnées 72-18, mais ça paraît, plus ça allait, plus je le regardais, ce livre qui, en plus je caressais les pages, l'édition est incroyable, les impressions sont incroyables, et je me disais, mais comment il a fait pour choisir?
En fait, je me suis confié à deux personnes. La première, c'est une amie graphiste qui me connaît depuis très longtemps, qui s'appelle Corinne App, qui, il y a 5 ans, s'est plongée dans mes archives, par pur plaisir et par pure amitié. Elle me dit, écoute, tu fais chier, t'es toujours à te plaindre que t'as pas assez de boulot et tout ça. t'as plein d'images, donne-les-moi, et puis je vais voir ce que je peux faire. Mais j'ai envie de faire un truc avec ça. Donc je lui ai vidé sur son bureau plein de choses que j'avais, que je savais que j'aimais bien, et je savais qu'il y avait un lien entre tout ça. Ça, je le sais depuis longtemps. Mais j'ai jamais réussi à construire ça moi, parce que quand on est photographe, c'est une espèce de roue qui tourne. On est tout le temps dans la production. C'est simplement la vie de photographe, c'est ça, quoi. C'est des sujets, de renouveler les sujets, chercher des nouvelles idées, travailler et avancer, quoi. Et moi, j'ai jamais eu le temps de me retourner. Et depuis plusieurs années, je me disais, mais c'est quand même dingue, parce que j'arrête pas d'avancer et je ne fais rien de tout ce que j'ai, alors que je sais qu'il y a un lien. Mais c'est compliqué de savoir ça, parce que toutes mes séries, en général, ont une forme différente. Il y a du noir et blanc, de la couleur, de l'argentique, du numérique, c'est flou, c'est net, c'est un vrai bordel. Mais je sais depuis plusieurs années que ce bordel a un fil rouge qui tient le coup. Mais...
En sachant le nommer ?
Non, bien sûr que non. Et donc, Corinne a, à partir de ces 300 images, fait une maquette qu'elle m'a remis. Et je me suis dit, pour la première fois, bah oui, c'est évident, ça marche, quoi. Et tout est parti de là. Donc j'étais absolument émerveillé par ce qu'elle avait fait. Et en même temps, c'était dingue, parce que je reconnaissais tout. Et du coup, je me suis dit, je vais le montrer. J'ai 3-4 amis très proches qui sont vraiment dans le milieu de la photo à Paris. Je me suis dit, je vais leur montrer ça, ils vont tomber rien de dingue. Je leur ai montré, je me suis fait envoyer au plot par tous les 5-4. Et là, je me suis pris une grosse bâche, je me suis dit, mais putain, j'étais presque sûr que c'était bien, quoi.
Mais avec quel motif ?
C'était pas assez dingue, c'était pas cohérent, pas homogène. Tout ce dont j'étais un peu persuadé, parce que c'est comme ça, c'est à ça que ça ressemble si on fait pas très attention. Mais je pensais qu'ils arriveraient à lire à travers ça. Donc je me suis pris un râteau. J'ai pris la belle maquette qu'avait fait Corinne, je l'ai mis dans un casier, dans un tiroir, et pendant 5 ans je l'ai pas sorti. Et début 2018, j'ai ressorti cette maquette pour un autre motif. Puis le gars qui regardait ça, qui connaissait pas du tout mon boulot, il a dit, mais c'est quoi ce truc? Je lui ai dit, c'est rien, c'est juste un essai qu'on a fait il y a longtemps avec une copine. Et il me dit, mais tu fais quoi avec ça? Je lui ai dit, bah, pour le moment, rien. Il me dit, mais t'es dingue. Et là, je me suis dit, je vais peut-être le ressortir maintenant. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Xavier Barral. Notre route s'était croisée plusieurs fois parce qu'on a participé à des projets collectifs avec Tendance Flou, dont je fais partie. Et Xavier, évidemment, nous a croisés. On a fait des projets collectifs ensemble avec lui. Moi, j'étais déjà émerveillé par
son
lui.
Son travail d'édition.
Son travail. C'est un peu le Graal, Xavier. Et donc, au bout d'un alignement de planètes absolument extravagant, Xavier m'a dit, et je vous la fais courte, on fait le bouquin de ça, à partir de cette maquette. Et je lui ai dit, mais Xavier, ça c'était la maquette il y a 5 ans, là depuis j'ai bossé vachement pendant 5 ans, il va y en avoir d'autres. Il me dit, écoute, on reprend ta copine Corinne, on reprend le chantier, et on y va. Et là, c'est un peu, c'est le conte de fées total, quoi. Quand tout d'un coup, Xavier Barral vous propose une chose pareille, il faut vraiment vous pincer fort. Et ça, c'était début juillet. Et donc, je lui ai dit, il faut que le bouquin soit prêt. En plus, j'en ai rajouté une couche. Je lui ai dit, je fais ce truc avec le Théâtre de la Colline. On va faire une installation là-bas. Et il faut que ça serait bien que le livre sorte à ce moment-là, parce que, il me dit c'est quand ? Je lui dis c'est le 7 juillet. Il me dit on commence tout de suite, il faut y aller. Et donc j'ai commencé.
7 janvier ?
C'était le 7 janvier.
C'est parce que vous avez dit 7 juillet, du coup ça faisait quand même mission totalement impossible.
Non, et ça c'était quand on s'est dit ça, c'était mi-juillet. C'était aux rencontres d'Arles, enfin juste après les rencontres d'Arles. Et donc j'ai passé tout l'été à vider mes boîtes, à chercher, à tout préparer pour pouvoir donner début septembre à Corinne. les 5 années supplémentaires que j'avais fait. Plus, évidemment, en cherchant tout ça, je suis tombé sur des trucs que j'avais complètement oubliés. Et en sachant toujours que, avec cette histoire de fil rouge, je l'ai repéré de loin. J'ai dit ça, c'est là. Ça, ça va pas, mais ça. Et comme ça, j'en ai ramené 400 en plus à Corinne, mi-septembre. Et on a repris le chantier à ce moment-là. Et je me rappelle à un moment, on est venu, Xavier nous avait donné un rendez-vous. C'était mi-octobre pour voir où on en était. Donc on lui a fait les sorties papier pour qu'il comprenne où on en était, des nouvelles images. Et on était arrivé à une maquette de 260 pages, alors que la première en faisait 150. Donc j'étais un peu pas très sûr de mon coup. Et il regarde la maquette et il me dit « Mais c'est bizarre, il en manque. » Bah, je lui dis « Oui, Xavier, mais on est déjà à 260 pages. » Et là, il s'est tourné vers Charlotte Desviol, qui est la chef de femme. Et il lui a dit « Il faut qu'on rajoute 40 pages. » Et c'est juste extraordinaire, parce qu'en général, les éditeurs, ils font l'inverse. Et là, j'étais tombé sur ce fou, ce passionné. En plus, dans tout le cheminement pour arriver jusqu'à Xavier, la maquette est passée par ses collaboratrices. Il y a Perrine Soma et Charlotte Desviol, elles ont vu ça, elles m'ont dit, mais ils connaissent ça, Xavier? Ben, j'ai dit non, j'ai pas eu le temps de le voir avant Arles et tout ça. Elle dit, mais il faut lui dire. Je dis, bon, on va pas le déranger pour ça. Elle dit, non, il faut lui dire parce que... Il fait partie des gens avec qui il voudrait travailler. Et là, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Et ça a continué comme ça jusqu'au bout. Et on a fini la maquette. Et il a travaillé avec les gens avec qui il travaille d'habitude, c'est-à-dire des collaborateurs extraordinaires, des photographeurs, un photographeur extraordinaire, un imprimeur extraordinaire. Ça n'a pas arrêté de jusqu'au bout, jusqu'à arriver à cet ovni-là.
Qui est un très beau livre et c'est une très belle manière de lui rendre hommage, ouais, à Alain Rio.
Il y a une sorte d'indigence que j'aime, et j'aime bien les paysages qui sont faits de peu. Les paysages qui ont quelques notes et qui les répètent inlassablement, parce que j'ai le sentiment d'avoir tout compris. Quand on se trouve dans des mondes plus riches, plus duveteux, plus mieux molletonnés, si vous voulez, tant dans le plan, sur le plan de la couleur que des odeurs, par exemple, on a souvent le sentiment qu'une bonne partie de ce que le monde vous offre nous échappe. Tandis que là, à Rennes, j'étais certain, c'est pour ça qu'il me suffisait largement de rencontrer 8 personnes, j'étais certain d'avoir vraiment tout compris. Et puis d'autre part, je considère que le voyage, un peu comme l'écriture d'ailleurs, est un exercice de disparition, si vous voulez. On s'efface au profit, on disparaît au profit de ce qu'on veut raconter. Et quand ce qu'on veut raconter est fait de peu, j'ai le sentiment d'être... à peu près à la hauteur de ma tâche. Et je pense également que lorsqu'on voyage, il ne faut jamais voyager avec le propos d'en faire quelque chose. Parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages sur lesquels je n'ai pas écrit une ligne, parce que ces voyages n'avaient en somme pas envie d'être racontés. Moi, je suis très sensible aux intentions du sujet.
On est en 1990 et c'est la voix de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier qu'on vous fait entendre, Alain Vuillaume. Plein de choses dans cette archive, peut-être l'idée que on peut disparaître dans un paysage au profit de quelque chose, l'idée aussi que il s'agit de ne pas voyager en ayant des intentions, mais voyager pour voyager, et ensuite parfois on écrit et parfois on n'écrit pas parce que le sujet n'a pas envie d'être raconté. Il me semble qu'il y a des échos possibles avec la manière dont vous photographiez.
Ben, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, parce que c'est évidemment, en plus c'est Nicolas Bouvier, donc c'est quelqu'un qui a ouvert la voie pour parler de la photographie dans le voyage, vraiment. Donc c'est vrai que pour moi le voyage c'est vraiment la disparition. Un voyage réussi c'est quand je me dissous dans l'air. Et que je suis plus qu'un petit point sur la carte. Ça, je suis sûr à ce moment-là d'être au bon endroit. Un photographe, il cherche toujours où se mettre. C'est la définition du photographe, c'est trouver le bon endroit, le bon angle et tout ça. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de chercher où se mettre. Une de mes habitudes, si on peut appeler ça une habitude, c'est de regarder où les routes se terminent. Je l'ai même poussé jusqu'à l'extrême parce que pendant plusieurs années, je suis allé au Finistère de l'Europe, au bout de là où la route s'arrête, vraiment géographiquement.
Mais vous regardez ça sur les cartes ou oui, vous le faites au moment où vous l'éprouvez, c'est-à-dire en marchant ou en conduisant?
Non,
sur les cartes.
Il y a un gros travail très jouissif sur les cartes à regarder où on est le plus loin d'un pays, par exemple. Quel est le point le plus à l'ouest? Quel est le point le plus au nord d'un pays? Et j'adore aller dans ces endroits-là. Parce qu'ils ont une histoire commune. Ils sont toujours, et ces endroits, et les gens qui y vivent, conscients de savoir qu'ils sont au bout du monde. Et moi, être au bout du monde, ça me va très bien, parce que je sais que je peux pas aller plus loin. Que ce qui est en face, c'est l'horizon, c'est le vide. Et ça, pour moi, c'est un des moments vraiment intéressants de la vie, c'est d'être là.
Avec l'intuition d'y trouver quoi comme image ?
C'est pas tant l'image que je cherche, c'est le sentiment d'être à cet endroit-là. Et alors, ce qui est assez extraordinaire dans ces Finistères, c'est que, et quand je dis qu'ils ont une histoire commune, c'est que très souvent, presque toujours, un bout du monde, ça a été soit investi par les militaires, soit par les moines, soit par les fous, soit par les gens qui ont envie d'avoir la paix. Et un photographe, c'est un peu tout ça en même temps.
Et en militaire plus, aussi.
Ben oui, parce que il faut se battre pour arriver là. Et souvent, c'est un peu compliqué. Je sais que l'extrême sud de l'Inde, il y a une petite excroissance à l'extrême sud de l'Inde où c'est vraiment compliqué, ça s'appelle Dhanush Kodi. C'est assez compliqué d'arriver là. Donc c'est une espèce de combat pour arriver là. Cet effort pour aller quelque part. Parce que même en Europe, avec ma compagne, on est parti 3 ans en camion aménagé pour relier tous ces points. Ça a été une expérience extraordinaire, mais on a fait 150 000 bornes pour aller dans ces points-là. Entre-temps, Anne, qui est ma compagne, elle faisait aussi des photos à l'extrême opposé de Jean en train de manger chez eux, donc exactement l'extrême inverse. C'était l'intimité dans sa plus grande intensité, parce que quand on voit des gens qui mangent, on peut pas être plus intime avec eux. Et moi, au contraire, je dégageais à l'autre bout, en général la solitude, pour expérimenter ces lieux. Et comme j'aime pas la lumière, j'ai fait les images dans ces endroits-là avec toujours la même lumière, qui est la lumière du soir ou du matin avant que le soleil apparaisse, s'il y a du soleil, ou dans la pénombre des jours couverts.
Une fois que vous êtes là-bas, Alain Villaume, vous faites quoi dans ces points-là du bout du monde, quel qu'il soit?
Ben, je m'assieds déjà. Je m'assieds, je regarde, je savoure vraiment ce moment-là. Et vraiment, j'essaye de prendre vraiment conscience d'être là, quoi. Et je sais qu'à ce moment-là, quelle que soit la photo que je vais faire, elle sera bien. En plus, comme il y a eu ces présences, ou qu'il y a toujours ces présences de force, qu'elle soit armée ou spirituelle, il y a toujours des signaux, il y a toujours ou des antennes ou des ruines ou des il y a toujours quelque chose qui lie à l'histoire des gens qui sont venus là. Au Portugal, par exemple, à Sagres, il y a une forteresse qui a été construite par Henri le Navigateur, qui était destiné à envoyer les bateaux à la découverte du Nouveau Monde. Et c'était vraiment un lieu à la fois militaire et spirituel. Parce que c'était le bout le plus à l'ouest. On a commencé le voyage en allant à Hierro. Hierro, c'est l'île la plus à l'ouest des Canaries. Et c'est là que Ptolémée avait décrété que se trouvait le méridien zéro. Et c'était le point occidental le plus éloigné du monde antique. Donc, symboliquement, on a commencé le voyage là-bas. Il n'y a pas grand-chose à voir, sauf qu'on sait qu'on y est. Et que du coup, l'image qu'on va faire de ça, elle sera chargée avec ça.
Vous vous documentez, vous avez besoin de savoir toutes ces choses avant de vous retrouver dans ces points du bout du monde. Et quand vous y êtes, est-ce que vous parlez avec ces présences? Je veux dire, est-ce que, parce qu'au-delà des ruines et des antennes et des grillages éventuels, il y a aussi parfois des humains. Mmh. Est-ce que vous avez besoin d'eux, de leurs mots, de leurs regards?
Non, ce travail sur les extrémités, il y a personne. Parce que c'est déjà tellement chargé et que si j'introduisais des personnages là-dedans qui sont de cet endroit, pour moi, ça ferait un peu retomber le soufflet parce qu'on serait obligé de parler d'eux. Alors que là, je veux parler des endroits et de ce que dégagent ces endroits. Par contre, les photos de ces endroits vont avec d'autres gens que j'ai photographiés ailleurs qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Avec le sujet du réel, mais par contre c'est les présences qui hantent ces lieux-là, et ça tous les personnages qui sont dans le livre sont potentiellement des habitants de ces bouts du monde
sans l'avoir été pour autant dans le réel, on peut considérer,
et ils ont rien à voir avec ça.
Ça, c'est la magie du livre, alors. Et de la manière dont vous avez relié toutes ces images dans votre tête et votre cœur, Alain Villaume.
Oui, c'est vraiment ça. J'ai eu la première fois, et ça, je suis éternellement reconnaissant à Xavier et à Corinne, c'est que pour la première fois, j'ai réussi à construire l'ensemble de ça, et qu'on y croit. Et que ça ne soit pas un livre sur quelque chose de réel. Alors que ce n'est que des photos du réel. Il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucun trucage. Ça n'est que cette relecture de tout ce que j'ai vécu depuis toutes ces années, mis dans le bon ordre. Et moi, j'étais secrètement, totalement
convaincu de ça.
Mais je n'avais pas fait ce chemin pour arriver à ça. Et j'ai été évidemment aidé parce qu'il y a des textes aussi qui pour moi sont très importants, notamment ceux de Gérard Haller qui est un compagnon de lettres pour un photographe, c'est pas courant, mais lui c'est vraiment un compagnon de lettres parce qu'un jour, il y a plus de 30 ans, j'avais fait des photos de soldats pour un festival de musique à Strasbourg Musica. Et j'avais fait des photos de soldats parce que je faisais les photos pour le festival et que on m'offrait un portfolio d'images à l'intérieur du programme du festival. Et cette année-là, c'était le point fort du festival, c'était le Die Soldaten, l'opéra de Bernd Alois Zimmermann. Et je m'étais dit, ça s'appelle Les Soldats, je vais faire un truc sur les soldats. En plus, je travaille sur les gens masqués, casqués, tout ça. C'est une de mes obsessions. Les soldats, ils ont des casques, j'y vais. Sans savoir plus que ça. Et donc j'ai réussi à aller dans un train militaire qui partait de Mulhouse et qui allait à Berlin livrer des chars. Et donc j'ai fait juste ce voyage-là, dans le train, avec ces soldats français qui voyageaient. C'était un voyage très bizarre parce que ça durait deux jours. On allait très doucement, il fallait laisser passer les trains de voyageurs. C'était pas un convoi prioritaire, donc ça allait très doucement. On prenait des petites lignes, on s'arrêtait, on descendait du train. Et c'est un milieu très clos, l'armée. Moi, c'est le seul moment où je l'ai côtoyé.
Mais c'est,
oui, je me suis fait dispenser à l'époque où c'était assez facile. J'ai découvert un univers totalement clos sur lui-même, avec des gens qui n'ont aucun lien avec la réalité. Ça me collait assez bien. Et surtout, j'ai découvert que c'était des gamins. Les appelaient, il y en avait qui avaient 16, 17, 18 ans, quoi. Et en fait, j'ai photographié pendant ces deux jours, j'ai fait une dizaine de rouleaux. Et à la fin du voyage, quand j'ai tout développé, les images, j'ai découvert l'extraordinaire fragilité de ces enfants dans leur accoutrement guerrier. Et Moi, je pensais que j'allais voir une histoire de guerre. Il y avait des tanks, il y avait machin, il y avait des grosses machines. Et en fait, j'ai découvert sur le visage de ces enfants cette incroyable fragilité. Et là, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et de découvrir cette fragilité dans des corps aussi violents, parce que c'est une image violente, un soldat. Et de découvrir ça, ça m'a vraiment... Ça, c'est encore un truc qui m'a conforté dans ma certitude que le réel ne montre jamais à travers moi ce qu'il est.
Vous parliez de la compagnie littéraire de Gérard Léon. On va écouter un de ses textes.
C'est dans le noir. Ils regardent. On les voit mal d'abord... On a du mal à les discerner. Et peut-être ont-ils peur, eux-mêmes, de s'avancer au bord de ce noir tout autour qui paraît les cerner. Cependant, c'est là qu'ils se tiennent. Au bord sans bord de la lumière. C'était avant déjà. C'est dans la nuit sans eux déjà où commence et finit la lumière. Ils regardent. Inidentifiables. Comme suspendus eux-mêmes au bord des ténèbres. Ces paysages qui sont comme l'autre face du visible. Personne, ici. Ni homme, ni Dieu. Rien qui nous ressemble. Mais, aux confins du ciel et de la terre, ces vues seulement du seuil où le ciel et la terre et la vue elle-même à la fin vont se perdre. Si loin qu'on porte le regard, c'est cela pour finir qui nous fait face. Effrayante et magnifique. Rien d'autre en effet que l'immensité vide de la nuit. Ils attendent. Comme nous. Ils savent ce qui nous attend.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Alain Villaume.
Guillaume Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait un texte qui est présent dans votre livre Coordonnées 72-18, publié aux éditions Xavier Barral, de ce compagnon littéraire dont vous parliez tout à l'heure, Gérard Haller, où les questions d'images qui viennent du noir, de votre amour de la nuit, mais aussi de tous ces inidentifiables. Et ce texte-là, il arrive justement juste avant une série de photographies où des visages sont dissimulés, quelle qu'en soit la manière. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est une sorte d'obsession, en tout cas pour nous qui regardons le livre, c'est comme une rythmique presque, ces visages qui sont à la fois qui s'offrent et se dérobent en même temps. Alors les obsessions, c'est bien quand on commence à savoir un petit peu de quoi il s'agit, non? Qu'est-ce qui vous fait aller regarder ces visages-là qui ne se montrent pas complètement?
Alors, d'abord juste pour ma rencontre, ma première rencontre avec Gérard Haller, c'est quand j'ai fait ces photos de soldats.
Dont on parlait tout à l'heure.
Il m'a dit, est-ce que tu veux bien que j'écrive quelque chose là-dessus? Et moi, je le connaissais très peu à cette époque-là. Il m'a offert ce texte. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que moi, j'ai fait les photos pour illustrer son texte. Et ça a été une révélation extraordinaire qui s'est répétée après. Chaque fois qu'on a continué à faire des choses ensemble comme ça, et chaque fois qu'il écrivait quelque chose sur des images que je lui envoyais, quand je lisais le texte, je me disais, mais c'est un retournement à chaque fois extraordinaire. Chaque fois, je me dis, mais c'est moi qui ai fait les photos pour son texte. Donc voilà, c'était juste pour finir de parler des soldats. Qu'est-ce qui se passe avec cette obsession? Effectivement, j'ai fini par avoir un début d'explication sur ça, C'est qu'en fait, une des premières fois où j'ai photographié consciemment des gens dissimulés, en fait, c'était en 84 ou 85, il y avait eu un fait divers qui avait défrayé la chronique, et c'était la victime d'un cambriolage qui avait tué son voleur sous le prétexte de la légitime défense. Et suite à ce fait divers, il y a eu tout un débat public mené par l'extrême droite sur le droit du port d'armes, la légitime défense, la peine de mort. Et ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, mais je voudrais parler de ça. Comment parler de ça? Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? On est en train de parler de la création d'une armée civile. On demande aux gens d'avoir des armes et de faire la justice eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle une armée civile. Et comment représenter une armée civile quand c'est pas le cas? Parce que c'était une dystopie de penser comme ça. Et je me suis dit, je vais photographier des gens qui ont des casques dans la rue. Qui c'est qui a des casques dans la rue? C'est les gens qui font de la mobylette ou de la moto. Et donc je suis allé à un feu rouge un matin, c'était en hiver évidemment, il faisait très froid, très mauvais, les gens, c'était le lever du jour, et je me suis mis à un feu rouge, et j'avais rajouté une petite couche à ce dispositif, c'est que je voulais avoir des images qui venaient de la télévision, de la télésurveillance. À l'époque on n'en parlait pas trop, mais j'avais absolument envie d'avoir la trame de la vidéo sur ces images là donc j'ai demandé à un copain caméraman de venir avec moi, et en fait au feu rouge il a filmé tous les gens qui étaient arrêtés au feu rouge, qui étaient en mobylette, qui avaient des casques, et on est parti avec plusieurs heures de rush de ça. Et j'ai mis les cassettes sur un écran vidéo, et j'ai cherché des images arrêtées que j'ai recadré ensuite, et du coup j'ai eu mon armée comme ça, et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, mais ça raconte quoi à part l'anecdote du fait divers et politiquement ce que ça raconte? Au fil des années, en continuant à photographier des gens cachés pour
plein de raisons différentes, hein,
plein de raisons différentes, jamais pour des raisons de violence, c'est jamais ni des terroristes ni des gens du Chiapas, c'est vraiment que des choses de tous les jours. Et en fait, je me suis dit au fil des années, en rassemblant cette collection d'images, que ce qui en fait est une assez bonne image de la société, c'est que en fait on essaye de se protéger. Ça c'est assez naturel, mais maintenant la forme de protection qu'on prend de plus en plus donne une image qui renvoie de la violence. C'est-à-dire que quand on se protège avec un casque, on se protège vraiment avec un casque, mais du coup on devient un soldat. Et quand on a froid, on met une cagoule pour se protéger, mais du coup on devient un terroriste. Donc ça veut dire que plus on essaye de se protéger soi-même, plus on devient menaçant pour les autres. Et ça, je me suis dit, mais c'est juste exactement ce qui se passe, quoi.
Étrange résonance avec les débats du moment.
Exactement, ouais.
Évidemment, quand on tourne les pages et que tous ces visages dissimulés nous apparaissent, parce qu'ils apparaissent paradoxalement, ça renvoie aussi à tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire une manière de se dissoudre, de disparaître à l'intérieur des paysages, lorsque ce que vous photographiez ne comporte plus du tout d'humain, mais plein de manifestations, plein d'apparitions, plein de présences qui sont parfois un nuage de poussière, parfois un oiseau qui traverse le ciel entre deux immeubles, parfois de la caillasse, parfois un bout de quelque chose, un bout de pierre. Et donc on entend aussi que ce sont deux choses qui, à un endroit de protection et à un autre endroit, au contraire de présence, de très grande présence, se rejoignent. On entendait sous la lecture de Romain de Becdelièvre des trompes tibétaines, et ce n'est évidemment pas un hasard, puisqu'il y a plein de voyages dont on pourrait considérer que ces photographies témoignent, et puis il y a des voyages qui, on va dire, sont presque comme soulignés. Enfin, en tout cas, il y a certaines photographies dont on sait qu'elles sont prises au Tibet, alors qu'il y a plein d'autres photographies où on ne saurait pas les localiser. Comment est-ce que vous expliquez cela? Simplement des tenues, des visages qui nous font directement penser au Tibet, ou c'est parce que pour vous, Ça a été un voyage important et on le ressent d'une manière ou d'une autre.
Alors, ça n'a pas été fait au Tibet. Donc, ça a été fait en Inde, dans les communautés réfugiées de Tibétains. J'ai découvert cette communauté tibétaine.
Mais par exemple, dans les quartiers à New Delhi, qui sont uniquement peuplés de personnes tibétaines exilées.
Il y a un endroit qui s'appelle Dharamsala, qui est le siège du Dalai Lama, qui est un peu le nid central. Et puis après, il y a plein de communautés qui sont dispersées en Inde. Là, c'était à Dharamsala et au Népal. En fait, j'ai découvert l'histoire de l'oppression tibétaine par les Chinois au cours d'un voyage en Inde. Et j'avais assez peu conscience de tout ça. Et j'ai découvert cette histoire-là. Et il y avait un truc qui collait pas avec les gens que je voyais, parce que c'est des gens extrêmement gais, incroyablement accueillants. Ils ont des rituels d'une beauté renversante, extrêmement exotique, avec plein de couleurs et tout ça. Et je me suis dit... c'est incroyable qu'une apparence extérieure comme ça, aussi joyeuse, aussi colorée, aussi gaie, soit parallèle à ce drame absolument épouvantable.
Parce que voir quoi, le cache par exemple à vos yeux ?
Pas le cache, mais je me suis dit, si je veux parler de ce drame-là, qui pour moi était nouveau, je peux rien faire avec cette réalité. C'est beaucoup trop joli. Tous ces gens sont beaucoup trop aimables et souriants. Si je les photographie comme ça, ça va jamais marcher. Je vais jamais pouvoir parler de ça. Ou alors je vais faire un travail de militant et ça va être un peu ennuyeux parce que il va falloir que je rassemble des preuves, des machins, des trucs, des textes et tout ça. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Et en plus, souvent, ça marche pas très bien. Et donc, j'ai cherché pendant plusieurs années. Je suis allé plusieurs fois aller voir. Et donc, la première fois, j'avais fait de la photo couleur. C'était juste ridicule. Après, je me suis dit, je vais le faire en noir et blanc, comme ça je vais éviter ça. Ça marchait toujours pas. Et un jour, j'ai un ami qui m'a prêté un appareil photo, c'était le début du numérique, qui faisait des photos la nuit. C'était la technique du night shot, c'est un peu la technologie militaire, de nouveau, sur le qu'on a vu la première fois sur les images d'Irak. Et je me suis dit, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, je veux photographier un peuple qui tend vers l'extinction. J'arrivais pas à trouver une forme. Là, j'ai un appareil qui marche dans le noir, qui marche que quand tout est éteint. Eh ben, je vais les photographier avec cet appareil-là. Et là, j'étais sûr que ça allait marcher. Avant même d'avoir fait les photos.
Et donc, ça donne des photos que vous décririez comment, Alain Villaume?
On retrouve de nouveau ce mélange à la fois de très grande vulnérabilité, parce que en plus la plupart des photos c'est des nonnes, donc c'est des jeunes femmes, la plupart là dans le livre c'est des jeunes femmes totalement androgynes, donc on sait pas très bien ce qu'on regarde, mais il y a une innocence, il y a une profondeur en plus, parce qu'elles sont pas en méditation mais en étude de prière, donc c'est un moment très très intime. Comme il faisait noir, en plus, elle me voyait pas, donc c'était très confortable pour moi de pouvoir m'approcher aussi près d'elle pour faire leur portrait. En plus, ça donne une lumière très très irréelle, cet appareil. En plus, c'est vert. Donc, je sentais cette fragilité-là, cette spiritualité, parce que c'est des visages extrêmement purs, quoi, si on peut utiliser ce mot. Et en même temps, comme c'est des images faites avec une technologie militaire...
Elles inquiètent.
Et là, je me suis dit, là, ça commence à raconter quelque chose de leur drame. Et c'est peut-être là où la forme marche avec le fond.
Ce qui m'intéressait, ce qui continue à m'intéresser, c'est de voir quel point de vue sur le monde différent de celui des autres modes d'expression, la photographie est capable de proposer ou pas. Je crois qu'en photographie, comme dans les autres domaines, ce qu'on peut attendre des créateurs, c'est qu'ils posent les questions de façon pertinente, qu'ils posent les bonnes questions. Une des questions qui est immédiatement en jeu dès qu'il s'agit de photographie, c'est la question du réel. Quel réel, qu'est-ce qu'on explore, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on questionne. Je suis très frappé par le fait que, à un moment où on voit beaucoup d'images, moi j'ai le sentiment que toutes ces images, de plus en plus, elles tiennent le réel loin de moi. C'est pour ça que j'ai envie d'images qui me confrontent plus directement au réel. J'ai le sentiment que les images d'Ackermann sur Bénarès, qui sont en fait extrêmement lyriques, qui sont des fictions, elles m'obligent davantage à m'interroger sur le monde tel qu'il est, tel qu'il tourne mal, que certaines photographies, que la une de VSD stupide de cette semaine sur le Kosovo avec une caricature de soldat tenant un bébé. Je demande à une photographie de m'émouvoir, de me transmettre une émotion, un point de vue, et de m'obliger à me poser des questions. Quand dans ma tête, je suis obligé de me dire telle image photographique que je vois, ben, ça m'a l'air tellement différent de ce que j'ai vu à la télévision, je me pose des questions sur la situation à laquelle ces images font référence. Ces images ne sont jamais la vérité de ces situations. Mais si elles m'amènent à me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, je crois que c'est gagné. On peut pas l'attendre davantage.
En 1989-99, Christian Cojol dit en fait, moi, j'attends que la photographie me pose des questions et surtout, elle commence à le faire quand je réalise que c'est une image différente de toutes celles que j'ai vues à la télévision. Alors on est en 1999, il parle déjà d'une très grande multiplication des images. Évidemment, 20 ans plus tard, on pourrait amplifier ce propos. Alain Villaume, est-ce que vous attendez que les images vous posent des questions et que par ricochet, elles nous en posent aussi?
Moi, j'attends pas qu'elles me posent des questions, les images. Je les ai tout seul, les questions. Et ces questions-là, j'essaye, moi, de les faire apparaître en photo. Et après, j'espère qu'effectivement, cette question-là est relayée jusqu'au spectateur, jusqu'à la personne qui regarde
les photos. Ça traduit votre question, ça traduit vos questions.
Pas mes réponses. Ça ne traduit en aucun cas ma réponse. Ça traduit ma question, mes interrogations, mes préoccupations même. Et ce que dit Christian, qui est un visionnaire extraordinaire, qui avait déjà raison sur tout il y a 20 ans et qui a toujours raison sur 20 ans, dans 20 ans.
On verra.
Je suis sûr. ce rapport au réel, ça a alimenté toute l'histoire de la photo. La tension entre art et document, c'est l'histoire de la photo. Mais depuis l'arrivée notamment du numérique, il y a une espèce d'accélération qui va de pair avec la tyrannie du document, j'allais dire, et avec le numérique, on est en train de s'éloigner de ça. C'est-à-dire que l'image comme trace, comme témoignage, est en train de perdre un peu de terrain. Et pour moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le monde actuel, qui est ce que disait Christian sur la couverture de VSD, ce monde actuel est en train de perdre du terrain au profit d'un monde possible, ou deux mondes possibles.
Par la profusion?
Non, par la question, par le nombre de questions. La profusion n'a rien à voir avec ça. Mais la possibilité de multiplier les points de vue est en train de dynamiter
une sorte de documentation qui s'accrocherait au réel, qui vaudrait pour vérité d'une certaine manière, ouais, à l'invio.
Ouais.
Et en fait, comme il y a tellement de points de vue qui s'accumulent et qui s'accumulent en même temps, on tend davantage vers un monde possible, un monde éventuellement imaginaire, un monde...
Bah oui, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. On est noyé sous les images, donc il faut bien qu'on trouve une solution à ça. Et cette solution-là, c'est de se dire, y a cette réalité qui est devenue indéchiffrable, et donc il faut bien qu'on trouve un passage au milieu de ça. Et ce passage-là, c'est un des passages que j'essaye de faire, c'est comme un chasse-neige, comme ça, dans la tempête. Un ami qui parlait à propos de mes photos de photographie orphique. Donc orphique, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, donc je suis allé voir quel était le lien avec Orphée. Et en fait, Orphée, à un moment, dans le voyage avec les Argonautes, c'est lui qui chante pour pas que les marins entendent le chant des sirènes. Et là, j'ai trouvé qu'il avait drôlement raison.
On a commencé avec une de vos photographies, Alain Viaume, cette fameuse photographie du stade qui a été si importante. Et je voudrais qu'on termine par un autre de mes choix, mais je vous laisse quand même deux possibilités. Une image qui est très inquiétante, qui est une voiture et une sorte de fantôme radioactif d'un bébé, bouche ouverte, par la vitre. Première possibilité. Ou deuxième possibilité, un paysage très sombre, encore une fois, avec ou bien un âne ou un cheval et une sorte de cagoule fluorescente. Vous nous racontez laquelle ?
Le choix est difficile, hein, parce que c'est deux images qui sont importantes. J'ai envie de dire qu'on va prendre la plus dérangeante, qui est celle du bébé. Alors quand je vais vous dire ce que c'est...
Ça va moins me déranger ?
Ben non, mais vous allez vous dire, ah bon, c'est ça. Et ça, c'est le problème avec les explications. C'est que là, vous avez cette question...
Mais j'ai fait exprès de ne pas lire les légendes, moi, du livre.
Oui, ouais. Mais là, je vais être obligé de vous donner la légende. Et donc, du coup, ça va vous enlever quelque chose de la photo.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh ben, si vraiment vous voulez la réponse, je vais vous la donner.
Allez.
Parce qu'en plus, s'il y a les réponses dans ce livre, c'est grâce à Xavier Barral. Parce que moi, je ne voulais pas mettre de légende. Et Xavier est tellement curieux, il a tellement envie de voir, de savoir ce qu'il regarde, de connaître des histoires. C'est un fou d'histoires, Xavier. Et il m'a dit, ah non, non, moi je veux des légendes, je veux que tu me racontes tout. Je lui ai dit, non, mais on va donner trop de clés. Il dit, tu trouves un système, on trouvera pour pas que ça s'ouvre trop vite. Mais on trouvera une façon dans le bouquin, mais moi je veux tout savoir.
Alors ce bébé?
Alors ce bébé, en fait, c'est une poupée. C'est une poupée de très mauvais goût, qui est accrochée dans une voiture. La voiture est au bord d'une plage près de Land's End. Land's End, c'est un bout du monde qui est la pointe extrême sud-ouest de la Cornouailles pour le Royaume-Uni. Et il y avait cette personne descendue en voiture sur la plage pour voir le coucher de soleil. Et donc je me suis rapproché de la voiture. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Cette poupée accrochée à la vitre arrière de la voiture. Le type, il était dans son monde.
Ça m'inquiète pas du tout beaucoup, moi.
Alors lui, du coup, c'est le type qui devient inquiétant. Mais c'est étrange parce que cette image, à un moment, elle avait été choisie pour une des affiches du Théâtre de la Colline, pour lequel je fais cette installation aussi. Mais au départ, c'était pour la communication du théâtre. Et Pierre Dichoulot, qui est le graphiste qui conçoit cette campagne, avait eu le culot de choisir cette image-là. Et moi, j'avais dit, c'est dingue de faire une affiche avec ça, parce que c'est vrai que visuellement, ça a un impact extraordinaire. Et par contre, donc il l'a proposé, il a fait la mise en page avec le texte et tout ça, il l'a proposé au théâtre. Et là, la personne qui s'occupe des relations publiques a vu cette image. Elle dit, si vous mettez ça, si vous l'utilisez, moi je démissionne, je veux plus. Et en fait, elle, ce qu'elle avait vu, et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un me donner cette vision, elle a vu une poupée pour pédophile. Genre poupée gonflable et qu'on utilise. Et là, il y a eu un blanc dans la salle. Et là, je me suis dit, c'est mort là. On n'utilisera pas jamais cette photo pour la campagne de... Et j'essaye maintenant de me dépêtrer de ce qu'elle a dit. Parce que moi, du coup, je le sais aussi. Et ça me dérange. Parce que j'y avais pas pensé, en plus. Jamais. Donc, vous voyez, comme les réponses aux questions que posent les photos peuvent les affaiblir, en fait.
Et les enfermer. Mais pour notre chance, à toutes et à tous, les réponses sont en tout petit à la fin du livre. Alors, ou bien on assouvit sa curiosité, ou bien on reste juste avec les images et puis on peut changer d'avis. Ce soir au son, c'était Alain Joubert à la réalisation Massimo Bellini. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos, Lou Quevauvillier et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours sur France Culture. Très belle soirée et à demain. Thank you.